Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6, La Conscience Collective. Cet épisode est dédié à l'émerveillement lucide. Comment retrouver son âme d'enfant de manière consciente, volant faire, quotidienne, perpétuelle au final, puisque quand on renoue avec ses racines à l'âge adulte, eh bien, via l'enfant que l'on était à une époque qui s'émerveillait de tout ce qui l'entourait, de ses découvertes, d'apprendre, d'être curieux de la vie, de mettre de la terre autant que des fleurs dans sa bouche, mais cette fois à l'âge adulte, non plus en faisant des choses qui sont socialement bizarres et inadaptées, comme mettre de la terre et des fleurs dans sa bouche, quoique pourquoi pas, après tout, ce sont des expériences culinaires qui valent la peine d'être testées dans certains environnements, et il y a des restaurants réputés pour se faire qui sont à recommander, c'est certain. Si vous avez des recettes, n'hésitez pas à les partager sur le compte Instagram Les Doigts dans le Miel. Néanmoins, l'objectif de cet épisode n'est pas de nous permettre de parler de culinaire et de terre à cuisiner, mais bien d'aborder notre capacité à explorer, comprendre, théoriser, réfléchir, mais surtout mettre en place les mécanismes liés à notre enfance afin de nous émerveiller de notre quotidien avec les autres à l'âge adulte. Arriver à faire ça, ce serait quand même pas mal la classe. Honnêtement, dans cette saison 6, la conscience collective, faire un pas de côté pour faire la guerre à la guerre. L'objectif est légèrement ambitieux. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je vous l'exprime sous la forme d'une réponse au TED d'Idriss Aberkane il y a quelques années où il parlait de complexes pacifico-industriels et non plus de complexes militaro-industriels, ou encore pour le relier à Elon Musk qui veut bien produire, faire ce qu'on appelle une terraformation sur Mars et rendre Mars habitable, donc pour construire une nouvelle communauté qui soit différente, qui soit l'évolution de celle que nous vivons sur la planète Terre. Mais là encore, je me suis dit, bon. Et puis, il y a quelques jours, je lisais Juan Branco, que je vous invite à découvrir via son discours à Polytechnique du décembre 2019, où il expliquait aux personnes qui sont à Polytechnique, aux étudiants de Polytechnique, qui est l'école réputée la plus prestigieuse de France, que la République ne leur appartient pas. Alors, s'il emploie des mots très forts, qu'il a une expérience tout à fait singulière, particulière, qui lui permet également d'avoir une vue profonde et un point de vue d'une hauteur dont la profondeur est la combinaison ultime pour former un point de vue tout à fait solide à défendre et une vision de la société tout à fait incroyable, eh bien, en réalité, l'ambition va être de répondre aux trois personnes en parallèle. Quitte à se faire mousser un peu, autant se comparer non pas au meilleur dans notre domaine, mais au meilleur tout court. L'émerveillement lucide, c'est donc notre capacité à regarder le monde avec des yeux d'enfant, à toucher le monde avec des mains d'enfant, à ressentir le monde avec une âme d'enfant, à le vivre avec des émotions d'enfant, à le concevoir avec un cerveau d'adulte. La différence, elle est là. C'est dans notre capacité à mentaliser les choses qui, elles, évoluent drastiquement avec le temps. En fait, le côté mental, c'est lié à notre expérience, c'est lié à ce qu'on a appris, à nos parcours, à nos vécus, à ce qu'on a goûté du monde, à ce qu'on y a touché, à notre perception, aux questions que ça nous a amenées, aux réflexions que ça nous a amenées, aux actions que ça nous a amenées à produire, à faire, à penser, à imaginer, à inventer, à créer. Et vous le savez peut-être, parce que chez vous, c'est peut-être le cas, et quand je dis chez vous, je parle votre corps autant que votre esprit. Si vous êtes de culture occidentale, il y a fort à parier que vous n'ayez jamais appris grand-chose, sauf avec des amis ou vos parents, sur la spiritualité, il est fort à parier que vous ayez appris beaucoup de choses sur l'aspect mental, sans forcément creuser ce qu'est le mental. Il est fort à parier que vous ayez laissé vos émotions de côté du point de vue de leurs études, via votre parcours scolaire, et qu'à maintenant, peut-être que dans le milieu de l'entreprise, on vous parle d'intelligence émotionnelle, et ce blabla n'est à la hauteur que de l'absence dont il a fait partie de nos vies pendant notre jeunesse, pendant notre éducation. Et vous vivez, eh bien, la transposition de ces trois ensembles, spirituel, émotion et mental, dans le monde physique. Votre corps vous dit des choses, votre corps exprime des choses, votre corps vit des choses. Et les échanges qui existent entre le monde dehors, c'est-à-dire l'extérieur de mon enveloppe corporelle, et son intérieur, sont, eh bien, à la limite de ma peau, qui est l'organe qui recouvre mon corps. Il y a une petite anecdote à laquelle j'ai pensé cette semaine, je crois que c'était hier, que je vais vous partager, et je me suis dit, de combien de manières est-ce que mes mains se touchent? C'était une question assez surprenante, mais je faisais un exercice, je sais plus quoi d'ailleurs, et je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin qu'elles se touchent pour se toucher. Parce que, comme elles sont reliées à mes bras et mes bras à mon corps, d'une certaine manière, une de mes mains est la prolongation de l'autre main. Et par définition, si le corps est la prolongation de mes mains se touchent déjà. sans que je rapproche un doigt de l'autre, mes mains se touchent déjà via mes bras, via mon tronc. Et c'était une réflexion assez très spontanée, mais que je vous partage parce que c'est une réflexion qu'un enfant pourrait faire et que vous n'entendrez jamais de la part d'un adulte. C'est pas une réflexion que j'ai entendue de la part d'un adulte depuis des lustres. Je suis pas vieux comme le monde, et pourtant, ça fait des lustres que j'ai pas entendu ça. Et je me suis dit, en fait, ça m'a fait rire, j'étais tout seul, honnêtement, donc je vous partage une situation un peu cocasse. J'étais tout seul sur ma chaise de table à manger. Et puis j'ai regardé mes mains, je me suis dit ça. Mes mains se touchent sans se toucher. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire et ça m'a fait du bien. J'ai ri avec moi et j'ai ri de moi. Je me suis dit, mais c'est d'une telle innocence qu'en fait ça en est drôle. Et en même temps, c'est vrai. D'un certain point de vue, c'est vrai. Donc ça m'a fait sourire aussi parce que cette remarque assez bateau, d'une certaine manière, elle m'a fait penser que c'était un peu plus profond que ça, dans le sens où je pense qu'après un travail de plusieurs années, je commence à retoucher du doigt et d'une manière beaucoup plus naturelle une certaine partie de moi qui a fait mon enfance. La capacité à connecter des choses entre elles, la vivacité d'esprit, la créativité, la capacité à jongler entre de nombreux projets de manière naturelle et curieuse, la possibilité de penser à de nombreux sujets et à m'intéresser à de nombreux sujets en même temps. Mais pas comme si vous le travaillez un petit peu une heure par jour, une fois par semaine. Non, non, non. Non, non, je parle de 14 heures par jour, tous les jours, toute la semaine. Et dimanche compris. Ça a été un travail de plein temps. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de personne qui veut vraiment ça. Et ce qui a été intéressant, c'est également de faire cet exercice dans le quotidien, dans mon quotidien, et de le mentaliser, de le concevoir, de savoir à quoi ça ressemble, à où est-ce qu'on va, à quoi on se réfère, c'est-à-dire c'est l'expérience du passé qui reflète eh bien, mon modèle, c'est mon expérience personnelle. Par contre, combien de temps ça va prendre? Où est-ce que je vais comme ça et comment est-ce que je vais vraiment m'y prendre? Ouh, aventurier, grosse découverte. Et je demande ça à qui, moi? T'as déjà essayé de revenir enfant? T'as déjà essayé de redevenir l'enfant que tu étais? T'as déjà essayé de De réfléchir comme un enfant, encore maintenant? Mais volontairement? Non mais genre, pas comme un gogol, non. Non, comme un enfant. Vous savez, c'est un peu comme cette histoire d'imiter une fille courir. Et vous avez peut-être vu cette publicité, par exemple, sur les hommes et les femmes, où on demande à des personnes lambda, des jeunes adultes, des adultes et des enfants, d'imiter un homme courir. Puis on les voit faire des gestes super sportifs, etc., bien exécutés et tout. Et puis, il y en a, quand on leur demande d'imiter une femme courir, ils sont en train de mettre les bras un petit peu comme une folle. Vous voyez très bien ce que je veux imaginer à ce moment-là. Les bras un petit peu en l'air, les jambes qui vont sur les côtés, c'est n'importe quoi. En fait, c'est drôle de principe, mais c'est pas drôle du tout dans le fond pour ce que ça implique en termes de mécanisme de pensée, de référence et d'image sociale. N'oubliez pas cette phrase, ce qui s'imprime subjectivement s'exprime objectivement. Quand on fait passer des messages par les médias, d'une manière ou d'une autre, ça rentre dans le cerveau et ça y reste. Plus c'est répété, plus ça s'imprime et ça ressort. Je vais prendre un exemple de le 4x4 T-Roc de chez Volkswagen. Il a vocation à faire en sorte que les petits-enfants qui avaient des dinosaures quand ils étaient petits, quand ils sont grands et qu'ils peuvent s'acheter une grosse voiture, ils achètent le T-Roc. Parce que le T-Roc, ça ressemble à T-Rex. Parce que le T-Roc, ça ressemble à la puissance, à la domination, au dinosaure, au T-Rex. Sans m'égarer pour autant, eh bien, les enfants qui imitaient les hommes et les femmes, pour le coup, quand on leur demandait de courir comme une fille ou de courir comme un homme, et d'ailleurs c'était intéressant de voir le vocabulaire qui était associé à ça, courir comme une femme, courir comme une fille, courir comme une fillette, courir comme un homme, courir comme une tapette. Donc on peut l'imaginer de tout un tas de manières possibles. Eh bien, ça a ses répercussions. Je reviens à mes moutons. Revenons-en à nos moutons. Je me suis référé à comment je me sentais. En fait, ce qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, c'était absolument pas, comment dire, cette capacité à mentaliser les choses, mais plutôt à me laisser porter par elles. Et pour me laisser porter par elles, je me suis dit, il faut que j'arrive à réacquérir suffisamment de savoir à un instant T pour absorber tellement de choses qu'en fait, quand ça va se faire naturellement. Je vais me charger la baraque, remplir la feuille blanche de tout un tas de listes d'écriture possibles et imaginables, et je vais en faire une liste de déglingos, de telle sorte qu'elle soit gigantesque, pour être en mesure, malgré moi, de faire les connexions qui s'imposent dans cette liste. Parce que je sais que mon cerveau fonctionne d'une certaine manière, et que quand j'étais jeune, je n'avais aucun préjugé, aucun préconçu. Je n'avais pas de modèles mentaux, on va dire, trop visibles à ce moment-là. Je n'étais pas encore formaté par une éducation, par une école, par un parcours, par des expériences. Quand on est enfant, les enfants s'embrassent. Sauf quand ils vont pas bien, mais les enfants s'embrassent. Les enfants sont heureux. Les enfants sont innocents. Est-ce que ça vaut pas la peine d'être innocent? Alors parfois, une phrase d'une entrepreneur que j'affectionne particulièrement, c'est parfois courageux de faire sans savoir. Plus courageux de faire sans savoir. Eh bien, pour le coup, c'est aussi un petit peu délicat de faire en sachant. Parce qu'il y a un risque. Quand on se réfère à une situation qui était idéale à un moment donné, c'est d'avoir visé un environnement qu'on ne peut plus reproduire maintenant. Parce que les conditions qui faisaient que cet environnement avait la possibilité d'exister à un instant T ne sont plus réunies et ne peuvent plus être réunis. Alors comment on fait pour dépasser cette barrière-là? Comment on fait pour prendre les choses en main? Comment on fait pour faire en sorte de redevenir comme avant, mais pas du tout comme avant, comme aujourd'hui. Parce que c'est ça tout l'intérêt. Imaginez, avant nos 6 ans, avant qu'il se passe une destruction phénoménale de nos neurones et que l'on passe vraiment dans un certain cap de l'enfance, avec un cerveau qui s'adapte aussi au fait qu'on soit des animaux sociaux, il y a tout un tas de choses qui nous permettent de développer nos mécanismes de pensée, nos mécanismes émotionnels, nos mécanismes primaires, nos mécanismes physiques, etc., qui sont mais d'une vélocité, d'un dynamisme incroyable. Et même encore après cette période de destruction de neurones dans le cerveau, donc ce sont des centaines de millions de neurones qui disparaissent, c'est beaucoup, c'est vraiment vraiment beaucoup. Eh bien, on a encore une période comme ça où on est toujours agile d'esprit malgré nous, agile d'esprit parce qu'enfant, agile d'esprit parce que environnement qui fait que, et puis petit à petit, ben ça s'émousse, parce que c'est pas ça qui est travaillé dans notre système éducatif, c'est pas ça qui est conçu pour nous, ce n'est pas comme ça que la société occidentale, je le répète, envisage de construire les hommes et les femmes que nous deviendrons à l'âge adulte. Il suffit d'ailleurs de voir à quel point nous sommes formatés dans nos grandes écoles, dans nos écoles tout court, à l'université, à la fac, dans tout un tas d'environnements sociaux éducatifs. Mais pour autant, je ne vais pas approfondir ce sujet parce que déjà, je n'y ai pas forcément mis les pieds plus longtemps que ça. Pas dans tous en plus, même si j'aurais aimé pousser le vice parfois. Toujours est-il que l'ambition, c'était d'être capable de redevenir aussi innocemment créatif que quand j'étais enfant, de telle sorte que mon cerveau arrive à connecter les points, et je prendrai l'expression « connect the dots », connecter les points, grosso modo, entre eux, d'une manière suffisamment naturelle et habile pour que ça fasse sens pour moi. La difficulté étant de trouver à exprimer les bons mécanismes pour l'exprimer auprès des autres, le véhicule de communication, ou bien, eh bien, de trouver les personnes qui n'ont pas besoin de 36 stratagèmes pour le comprendre. Là, je me réfère à une petite partie de la population de vous qui écoutez les doigts dans le miel. Ce sont probablement ces populations dites multipotentielles, plutôt avec une pensée divergente. Ce qu'on appelle aussi les pensées arborescentes. Parce que c'est comme si, au lieu de faire pousser une branche, à chaque fois que vous réfléchissez, vous en faites pousser 50. Et en plus, il y a des fleurs au bout, de multicolores, avec de l'herbe, ça se trouve entre les branches, de la mousse, des oiseaux, des machins comme ça. Là où, pour une personne qui ne réfléchit pas comme ça, eh bien, ce ne sont pas les mêmes productions de pensée qui arrivent. Ça a comme impact le fait de trouver des solutions beaucoup plus vite que les autres, mais d'être incapable de l'expliquer, par exemple, parce que c'est aller trop vite pour se rendre compte. Avec le temps, on peut apprendre. Ça a comme impact le fait qu'on n'ait pas compris parce qu'on dit qu'on a trouvé la solution, et qu'en réalité, les autres y arrivent, par exemple, au bout de 3 mois, alors que pour nous, c'est arrivé en 2 jours. Ça ne veut pas dire que les uns ou les autres sont plus intelligents que les uns ou que les autres, parce que ça ne nous empêche pas à tous et à toutes d'oublier, de mettre nos chaussures quand on va à l'école et d'y aller en chaussons. Ça ne nous empêche pas à tous et toutes d'oublier d'éteindre le chauffage en partant de chez nous alors qu'il n'y a personne à la maison. Ça ne nous empêche pas à toutes et tous d'oublier de fermer l'eau du robinet pendant que je ne sais pas quoi. Enfin, on a tous les mêmes travers, c'est juste une manière de réfléchir, une intelligence différente. Les tactiques que j'ai employées, ça a donc été de ne pas me ménager dans le fait d'apprendre. J'ai essayé de beaucoup apprendre. Je me suis intéressé à des nouveaux sujets, j'ai essayé de beaucoup apprendre. Lire tout le temps, faire des projets en parallèle les uns avec les autres, le faire un petit peu en vrac. Vous voyez, un petit peu comme une sorte de grande foire où on a l'impression que tout est en désordre et pourtant il y a une certaine forme d'organisation. Un peu comme un adolescent laisserait sa chambre relativement bordélique et pourtant il sait à peu près où se situe chaque élément. Eh bien, c'était un petit peu comme ça dans mon cerveau. Ça m'a permis d'acquérir énormément de savoir, et tout est relatif. Énormément par rapport à qui ? Énormément par rapport à moi, ce que je faisais avant. Donc, encore une fois, les points de repère, soit. Ça m'a permis de développer une certaine compréhension des systèmes autour de moi. Les personnes, les outils, les équipes, les entreprises, les groupes d'amis, etc., etc. Donc j'ai poussé le vice, j'ai pu m'émanciper sur le plan intellectuel de cette manière, me réémanciper plutôt, parce que c'était une revisite des mécanismes qui font mon développement personnel, mon développement en tant que personne. Jusqu'à un moment où je me suis dit c'est plus suffisant, et d'ailleurs j'exprimais une certaine forme de saturation. À force de mentaliser, je n'y trouve plus mon compte. Vers quoi je me tourne ? Ah, génial ! Les émotions ! Je ressens, je vis à nouveau. Je suis capable d'exprimer... Ah, combien ? 1, 2, 3, 10... Combien de mots d'émotions je connais ? Et là, c'est imposé une autre limite. Je n'avais que très peu de vocabulaire pour exprimer ce que je ressens, ce que je ressentais. Je n'avais que très peu de mots pour dire ce qui m'arrivait à un instant T. Faites l'essai pour voir, par exemple, chez vous, et essayez de trouver une vingtaine de mots, là, comme ça, dans les minutes qui arrivent, pour exprimer des états dans lesquels vous vous sentez régulièrement. Appliquez-y des nuances. Exprimez vos émotions. Eh bien, c'est pas très jojo à voir. C'est franchement une vraie difficulté que d'arriver à parler de soi sur le plan émotionnel quand on n'a pas l'habitude de le faire, alors pouvoir en plus trouver le vocabulaire qu'on n'a jamais cherché à développer, on passe au niveau supérieur de difficulté. Et puis, bon, j'ai développé ça, j'ai pas tout retenu, mais j'ai développé ça, et puis il y a une partie qui navigue encore à l'intérieur de toute cette matière grise. Et au bout d'un moment, j'ai découvert un autre palier. Et cet autre palier, il est spirituel. La conscience de moi, moi dans le monde, en quoi je crois. Je suis pas religieux. Je crois pas en un dieu. Je fais pas de prière. En quoi je crois ? Quelle est ma mission sur Terre ? Comment est-ce qu'on est connectés les uns aux autres ? Quelles sont nos connexions ? Quelle est l'énergie du monde qui nous guide les uns entre les autres ? Et y en a-t-il même une ? Qu'est-ce qui fait que mon âme peut avoir du poids et quel est ce poids ? Quelle est l'identité que je lui donne ? Quelle est son identité propre ? Est-ce qu'elle fait corps avec moi ? Est-ce qu'elle existe ? Et petit à petit, ça m'a encore amené à m'émanciper petit à petit. Ça fait beaucoup de petit à petit, mais pour arriver vers un grand tout. Et ce grand tout, ça doit faire un an et demi à peu près, il est revenu vers le monde physique. En partant de mon cerveau vers mon cœur, vers ce qui fait l'enveloppe spirituelle de mon corps, donc le côté un peu fantomatique comme on peut le représenter, je suis retourné vers mes mains. Drôle de connexion par rapport à cette histoire de connexion des mains, que mes mains se touchent sans avoir besoin de se toucher. Je suis retourné vers mes mains parce qu'en réalité, c'est juste pour exprimer le côté physique. Je suis retourné vers le côté physique. À un moment où j'ai à nouveau beaucoup appris et mentalisé des choses. Un moment où j'ai aussi réappris à ressentir. Un moment où j'ai appris à évoluer dans l'espace et me sentir faire corps avec le temps d'une certaine manière. Et bien tout ça m'a permis de faire ce que Béatrice Rousset, qui est l'auteur du livre Stratégie Mandel Mental, par exemple, appelle une involution. Vous voyez, la révolution de la planète Terre autour du Soleil, qui est le fait qu'elle fasse le tour du Soleil en un an, 365 jours. Et il y a l'involution, qui est le fait de revenir exactement à la même place, soi, mais sans avoir fait le tour. Alors, pour le coup, c'est assez particulier à exprimer. Je vous invite à chercher la définition, parce que c'est un mouvement de repli vers l'intérieur, qui peut être concret ou abstrait, ou les deux. J'aurais beaucoup de mal à vous donner une image, par contre, pour le coup. Moi qui suis très fort d'habitude pour exprimer en pomme, en poire ou en peau de banane, eh bien, la capacité de réinvestissement. Je vous invite à écouter l'épisode précédent qui traitait du réinvestissement continu pour se créer une richesse, pour se créer une prospérité. Et mieux comprendre le principe d'involution. Alors, peut-être que je me gourre un petit peu. Néanmoins, c'était l'idée exprimée. Un mouvement de repli vers l'intérieur qui permet au contraire de ce que l'image semble impliquer, c'est-à-dire l'image du repli, le fait de se recroqueviller, une explosion vers l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est comme, je ne sais pas si vous avez vu le film Limitless, c'est un petit peu comme quand le gars prend ses fameuses pilules pour se sentir super intelligent, là. Bah, en gros, les couleurs changent autour de lui, ça devient plus vif, plus brillant, il commence à regarder à nouveau les détails avec des grands yeux ébahis, il commence à ressentir les choses à nouveau, mais en plus grand, en plus fort, en plus beau, en plus puissant, en plus connecté. Eh bien, je n'ai pris aucune pilule et je ne me suis pas drogué pour que ça arrive, et je ne me suis pas senti spécialement intelligent, plus intelligent à ce moment-là. Mais la description de ce que je viens de vous partager était la même. Revoir les mêmes fleurs, les mêmes fameuses fleurs, ou les mêmes bouts de terre de l'introduction, non pas à mettre en bouche, mais comme des éléments faisant partie d'un tout intégré à un écosystème interdépendant avec leur environnement. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça excellent, j'ai trouvé ça surprenant, ça a attisé ma curiosité et ça m'a émerveillé. Et en réalité, ce qui se passe depuis ce moment-là, c'est que au début, ça a fait un petit peu comme des secousses. Ça, j'ai pu le vivre un petit peu au départ, par-ci, par-là, sans trop en avoir conscience, en sachant qu'il y avait des choses qui arrivaient, mais que c'était pas encore totalement mature, et que... Voilà, c'était juste un processus de stress corporel en cours d'expression. J'utilise beaucoup l'expression de stress pour exprimer à un moment dans la vie où il y a beaucoup de choses qui se cumulent et qui vont donner naissance à quelque chose de plus beau, plus fort, nouveau, neuf, à l'expression émergente d'une nouvelle réalité. Eh bien, j'ai réussi. J'ai réussi à retrouver ce sentiment de me sentir enfant. Au départ, une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, ça arrive de manière beaucoup plus régulière. Et en réalité, quand je travaille en ce moment, s'il y a des journées où je continue de faire ces fameuses 14 heures et où je suis parfois la langue bien pendue d'avoir cravaché pendant toute la journée, c'est une période que je me suis donnée. Eh bien, il y a de nombreux autres moments pendant ces périodes chargées et moins chargées ou au contraire, je me sens m'amuser avec une vraie vivacité d'esprit, une vraie curiosité d'enfant, une vraie capacité à m'exprimer comme un adulte enfant, ou plutôt comme un enfant adulte, toujours avec une certaine innocence et en même temps une lucidité développée et du coup entretenue par rapport aux découvertes que j'ai pu déjà faire. C'est-à-dire que je ne vais pas aller m'amuser à remettre mon doigt dans le feu pour vérifier que ça brûle, ou mon doigt sur les plaques de cuisson, ou mon doigt dans les prises de courant qu'on peut avoir sur les murs. Mais plutôt à regarder les choses avec un œil qui permet l'émerveillement, avec un regard qui permet d'être une vraie tendresse envers son environnement, qui permet de ne pas aborder l'autre avec trop de préjugés. Sans préjugés, ce serait bien beau. Mais on peut toucher du doigt certaines réalités qui se dessinent, c'est-à-dire que ça commence à être intéressant, ça commence à fonctionner, cette absence de préjugés. Non pas que je n'en ai plus, mais qu'en discutant, en échangeant, le travail mené conduit au résultat espéré. Devinez pourquoi ? Bon, y a une certaine logique. Ce qu'on plante, on le récolte. L'émerveillement lucide, ça devient donc un fondamental de mon quotidien, parce que c'est un point de repère pour m'épanouir au collectif, puisque cet émerveillement lucide me rend à même de le piloter, de le conduire dans mon quotidien auprès des autres, et que je voulais beaucoup partager avec les miroirs temporels, avec les miroirs déformants, le reflet de soi, l'effet boomerang d'une projection puissante. C'était les premiers épisodes 200 à 210 de la saison 5, le potentiel. Écouter le monde pour se métamorphoser afin de servir une cause plus grande, c'était exactement les autres, et nous y sommes. Saison 6, la conscience collective. Eh bien, les autres vous le rendent. Les autres vous le rendent, et ça conduit en fait à du respect et une certaine admiration, non pas de la personne, c'est-à-dire moi, mais de ce qui est fait. Et c'est tout à fait incroyable de voir à quel point, en réalité, dans le regard des autres, ce n'est pas tant la personne qui est en face qui les intéresse que ce qu'elle produit. Comment est-ce que je pourrais faire pareil ? Parce que c'est inspirant. Et en réalité, c'est une vraie capacité pour fédérer les autres. Une capacité à créer des équipes. Une capacité à rassembler autour d'une cause, autour d'une idée. Retrouver son âme d'enfant, ça n'est pas arrivé en un claquement de doigts, ça m'a demandé beaucoup de travail. Et je pense que j'ai encore du chemin à faire, mais que je suis en très bonne voie. Et que je commence à le vivre la majorité de mon temps. Ce n'est plus secondaire. Ça fait corps avec ce que je fais en permanence. Et c'est juste plus ou moins présent. Mais chez vous aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Vous l'avez déjà. Vous ne l'avez pas perdu, vous ne l'avez pas forcément entretenu. Ou en tout cas, vous ne l'avez pas entretenu dans tous les aspects de votre vie. Alors je peux vous proposer un challenge. Si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, non pas forcément redevenir l'enfant que vous étiez, mais cultiver votre âme d'enfant de manière à mettre du pétillant dans votre vie, à toucher du doigt cette notion d'émerveillement lucide qui permet de voir à la fois ce que la vie offre de mieux en étant conscient qu'elle est fragile. Parce que c'est fragile. Vous pouvez commencer par identifier les choses que vous apprenez vite. S'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur naturellement. S'il y a des styles de musique, par exemple, que vous vivez, que vous écoutez, que vous vivez en écoutant, c'est-à-dire qui vous transportent, si ce sont des sports, si ce sont les arts, et je vous invite à vous orienter plutôt vers ces trois sujets pour trouver leur correspondance ensuite vers d'autres thèmes. Pourquoi ? Parce que les histoires que ces sons, ces mots et ces images, les mots, je pense à la lecture, que tout ça nous raconte, eh bien, ça réveille en nous cette âme d'enfant que l'on cultivait tant à une époque donnée, que l'on aimait tant à une époque donnée, parce que ça nous fait voyager. Et nous aimons l'imagination, nous aimons imaginer, nous aimons créer, être créatifs. Nous sommes curieux et nous avons besoin de découvertes. Nous avons l'être humain, et nous, en tant qu'être humain, nous avons toujours, depuis que nous sommes nés, eu besoin de cette découverte pour nous sentir vivants. Et à partir du moment où vous arrivez à savoir ce qui ne s'use pas en étant lu ou écouté ou peint une fois, mais que vous avez besoin ou envie de le revivre une deuxième fois, c'est probablement votre âme d'enfant qui vous explique que vous n'avez pas encore fini de voyager avec ce premier jet. Et les enfants qui lisent notamment, par exemple, des livres, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, jusqu'à les connaître par cœur, et Harry Potter était un bon exemple, mais je pourrais aussi citer Eragon, ou encore les Agatha Christie, pour d'autres amateurs d'écrits, de policiers, d'enquêtes, eh bien, ça marche aussi. Trouvez votre préférence, et tentez de répliquer les comportements que vous avez à ces moments-là, eh bien, dans d'autres aspects de votre vie. Tentez de trouver les aspects où c'est plus facile de le développer à nouveau. Alors peut-être, vous pourrez toucher à ce qu'on appelle l'émerveillement lucide ou la capacité à être un enfant adulte. Compte tenu des partages qui ont été faits dans cet épisode, je vous invite à me partager vos retours d'expérience, ou vos idées, ou vos réflexions, et bien pourquoi pas sur Encore, via l'application, pour le faire de vive voix, ou bien sur Instagram, sur le compte Les Doigts dans le Miel, où on partage et bien, des citations inspirantes, des histoires, des stories dans lesquelles on se pigne les uns les autres, parce qu'une communauté est naissante et commence à vivre à travers certaines idées, une certaine émancipation collective, justement, que l'on fait vivre ensemble. Ou commenter l'épisode dédié, puisque ce sera le numéro 263 à ce jour. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain, qui s'appellera littéralement, après tant de travail sur l'émancipation collective, eh bien, vers les routes, vers la route ou les routes de l'exponentiel. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée!